physique, Père Philippe, 14 décembre 1983 à Saint-Joseph.
Nous allons continuer d'entrer dans la philosophie première d'une façon très générale, puisque c'est une introduction. Pouvez-vous mettre davantage en lumière les liens entre les sens et les cinq interrogations d'une part, et les liens entre les sens et les cinq causalités d'autre part? C'est un très gros problème. Nous avions commencé, je ne veux pas entrer trop dedans, vous ne savez rien. Pourquoi dites-vous que le comment, c'est l'intelligence liée à l'imaginaire? Est-ce que l'imaginaire, disons l'imagination, pour que ce ne soit pas négatif, hein, est-ce que l'imagination intervient souvent dans les sciences positives? Quand je prends l'imagination, c'est parce que l'imagination, c'est au point de vue sensible, la première faculté qui fait les synthèses. Ça qui est très curieux. Les sens regardent les qualités et l'imaginaire, c'est la faculté du mouvement. Elle fait les synthèses, elle unit des choses qui sont en mouvement. Et alors, ça permet à l'intelligence de saisir l'ordre qui suscite le comment. Quand l'intelligence pose la question du comment, elle se pose la question de l'ordre. Comment une chose, comment le lien entre ce qui est antérieur et postérieur. C'est toujours de cette manière, c'est toujours une espèce de vue beaucoup plus synthétique. Le comment est beaucoup plus synthétique que l'analyse. Vous voyez, quand on parle analyse et synthèse, hein, c'est un peu des schèmes, mais au fond, il y a quelque chose de vrai derrière. Il y a l'analyse, on creuse, on divise, on sépare, puis on rassemble. Et au fond, le comment, c'est toujours rassembler, puisque c'est essayer de saisir le lien entre ce qui est antérieur et postérieur, et le lien de nécessité qui existe entre les deux. Donc, c'est la première synthèse se fait toujours à l'ordre du comment. Et c'est l'imagination, et quand je pense l'imagination, cette faculté sensible liée au sens, mais qui n'est pas directement les sens, qui nous permet d'avoir ce lien entre antérieur et postérieur. Et c'est pour ça que l'intelligence s'appuie sur l'imagination pour poser le comment. C'est curieux, je dirais ça. Mais ça, je crois que c'est intéressant à souligner, parce que c'est un des aspects qui est très curieux de notre vie intellectuelle. Il faut beaucoup d'imagination pour être un savant. Au sens très très grand. Parce que le savant vit d'hypothèses. Et donc il faut toujours devancer. Et c'est ça l'imaginaire, c'est devancer. Et le comment, c'est cela. C'est cette imagination scientifique. C'est pas du tout négatif quand je prends l'imagination. C'est pour ça que j'aime mieux mettre l'imagination que l'imaginaire. Vous voyez ? L'imaginaire, à cause du point de vue psychologique, on pense toujours à l'imaginaire. Ah, vous êtes dans l'imaginaire. C'est une demeure dans la maison du Père. C'est une demeure d'attente. Parce que c'est cet imaginaire, si je reste toujours dans l'imaginaire sans rejoindre le réel, c'est embêtant. Mais si de l'imaginaire je peux rejoindre le réel, c'est très bien. Et l'imaginaire permet de devancer. C'est le propre de l'imagination. Ça devance. Et il y a, dans le propre de l'hypothèse scientifique, toujours cette possibilité de devancer. On devance ce qui est le réel. Et on se demande si c'est bien cela, si cet ordre est bien, si ces connexions, ces liens de nécessité que nous prévoyons, sont bien cela. Donc, c'est le lien entre l'intelligence et l'imagination qui permet de poser le comment. Et quand vous n'avez pas manqué un peu d'imagination, vous ne posez plus de comment. Les gens pleins d'imagination se posent tout le temps des comment. Comment ça va se faire? Comment? Alors, ça devient des projets artistiques, c'est le possible. C'est du point de vue du possible, ça. Tandis qu'au contraire, l'intelligence qui analyse, c'est juste inverse. Dans l'analyse, il ne faut pas tellement d'imagination. Il faut le lien d'intelligence et des sensations. C'est tout à fait différent. Ça, on dira facilement, il y a deux formes d'intelligence, une intelligence plus synthétique, une intelligence plus analytique. C'est très vrai que chacun d'entre nous, nous avons une orientation plus de ce sens ou de l'autre. Je crois que toute véritable intelligence a les deux. Toujours les deux. Et que toute analyse doit s'achever dans une synthèse. Et toute synthèse doit retourner vers une analyse. Perpétuellement. Et on avance comme cela. Et ça, on s'en aperçoit. On fait sa petite synthèse, hein, puis on la brûle vite pour revenir à l'analyse, pour creuser davantage, parce qu'autrement, on n'avancerait pas. Dans la synthèse, on n'avance pas. Point terminal. Et c'est vrai que le comment ne fait pas avancer. Il ne fait pas creuser. Alors c'est pour ça que je mets le lien d'intelligence et de l'imaginaire dans le point de vue du comment. L'imagination étant une faculté sensible plus développée que les sensations. Présuppose les sensations et présuppose une certaine autonomie. Par l'imaginaire, j'ai une certaine autonomie. Je peux faire certaines synthèses au niveau sensible. Alors évidemment, la science n'est pas au niveau imaginatif. La science est au niveau de l'intelligence qui se sert de l'imaginaire. Mais le comment, c'est toujours ces liens, qu'on cherche des liens de nécessité, entre deux réalités, deux notions qui nous sont données, et dont on essaie de saisir le lien de nécessité. Alors je reviens un instant, mais je vais aller assez vite, parce que je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que c'est un point de vue critique, et donc ça ne prend tout son intérêt, ça ne prend tout son intérêt qu'au terme. Mais comme la critique et la philosophie vont toujours un peu de pair, il est intéressant de saisir comment l'intelligence, dans son mode et dans sa condition humaine, est une intelligence qui cherche. Nous sommes avant tout des intelligences qui cherchent. Là, Merleau-Ponty a raison en disant que le propre de l'intelligence humaine, c'est de chercher. C'était vrai chez les Grecs, c'est vrai chez les savants. Un vrai savant est un chercheur. Et un vrai philosophe est aussi un chercheur. Pas au même niveau, il cherche. Et ça ne veut pas dire qu'il ne trouve jamais. Hein. Il peut trouver, s'il cherche, c'est pour trouver. Et quelquefois, on a très peur de trouver. On voit très bien ça chez Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty. Le premier homme a très peur de trouver. Parce que si on trouve, il y a un arrêt. S'il y a un arrêt, on ne cherche plus. Il faut comprendre qu'on cherche pour trouver. Et vous voyez, trouver, c'est la finalité. Et dès qu'on trouve, il y a un moment de repos pour rebondir vers quelque chose de plus profond. Et ainsi de suite. Alors, il faut essayer de saisir que les premiers plis de l'intelligence, premier pli, c'est l'intelligence liée à nos sensations. Étant donné l'état de notre connaissance, nous sommes des êtres qui d'abord touchons, palpons, voyons. Regardez le gosse. Comme il est avide de voir tout ce qu'on voit, il veut le toucher, et le toucher non seulement, il veut le manger. Hein. C'est la maladie du gosse, c'est parce qu'il veut le réalisme de manger. Tant qu'il a pas la crème, on va se mettre à la manger pour être sûr, et on verra que c'est pas tout à fait le même toucher, hein, que toucher que quand on le touche avec la main. Il y a autre chose. Alors c'est cette intelligence liée aux sensations qui est une intelligence dans son état premier. C'est ça l'intérêt, c'est l'intelligence dans son état natif. C'est vrai, c'est la naïveté d'intelligence, je suis tout à fait d'accord, mais après tout, la naïveté n'est pas un défaut absolu. Celui qui n'a plus aucune naïveté n'avance plus. Il est stérile, il est curieux. les grandes réserves profondes en nous proviennent de ça, parce qu'on accepte qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas épuisé. C'est ça la naïveté profonde, c'est de savoir que oui, la réalité est plus que ce que nous connaissons, la réalité. Et nous faisons, c'est vrai, on fait d'une certaine manière, alors c'est là on pourrait dire qu'il y a une naïveté fondamentale, on fait confiance à la réalité. On fait confiance à la réalité plus qu'à notre intelligence, plus qu'à nos idées. Parce qu'on considère que la réalité, elle a quelque chose de plus ancien que nous. Le monde existait avant nous. Quand j'ai un ancien devant moi, il existait avant moi, donc il doit avoir plus d'expérience que moi. Il y en a vite un ancien. Et alors on a un peu plus d'expérience. Et on comprend que de fait, la réalité a quelque chose de foncier auquel on revient tout le temps. Vous voyez, la naïveté, c'est bon de comprendre que mon intelligence est faite pour découvrir de plus en plus la réalité en se servant de mes sens. C'est pas suffisant. Je ne suis pas seulement un être sensible, je me sers des sens pour découvrir la réalité. Le jugement qui naît à travers la sensation. Mon intelligence qui naît à travers les sensations. Et alors, c'est ça qu'on doit essayer de découvrir dans ces premiers plis de l'intelligence qui interrogent. Mais de la naissance de l'interrogation. Ça, c'est très important. La naissance de l'interrogation. Comment l'interrogation naît? Parce que l'interrogation, c'est l'intelligence qui se sépare des sens. C'est le premier moment. On quitte la piste. Puis, c'est vol un tout petit peu. C'est impressionnant, le premier moment. On dit, pas trop, j'ai peur. Hein, vous quittez la piste. Puis surtout, quand vous la quittez un peu inclinée. Alors, tout semble prendre des perspectives nouvelles et différentes. Alors on a peur. Hein. Et c'est vrai que l'intelligence, par l'interrogation, quitte ce contact immédiat. La sécurité qu'on a de l'expérience. Normalement, l'intelligence a une sécurité par l'expérience. Et dès qu'elle interroge, elle quitte cette sécurité pour faire confiance à l'intelligence elle-même. Mais l'interrogation, c'est l'intelligence qui a confiance en elle-même. C'est pour ça qu'elle interroge. Et que quand on est trop sceptique, on n'interroge plus. Quand on est trop sceptique, on n'interroge plus. On dit non, c'est pas la peine. Il y en a tellement qui ont interrogé avant moi. Alors il y a un arrêt. Alors on n'interroge plus, on veut le fait. Puis on veut se tenir une... Mais alors le fait, c'est pas l'expérience. Alors c'est ça qui serait intéressant à voir. Vous voyez, c'est toutes ces notions tout à fait premières sur lesquelles il faut tout le temps revenir. Et on ne perd pas son temps quand on revient toujours à ces expériences premières. Parce que tout de suite, les conceptions qu'on a différentes entre ces choses tout à fait premières font qu'immédiatement, il y aura beaucoup, beaucoup de divergences après. Donc, vous avez cette expérience au sens fort qui implique les sensations. Quand je dis expérience, les sensations sont inclinantes, plus l'intelligence. Je ne dis pas encore comment l'intelligence intervient dedans, mais elle intervient, c'est sûr. Quand je touche quelque chose et que je suis très conscient de toucher, la conscience que j'ai de toucher cette table, je dis je touche ceci, eh bien l'intelligence est présente. Vous vous réveillez intellectuellement comme ça. Alors, il y a les sensations et puis l'intelligence. Et puis l'intelligence va interroger. L'interrogation, c'est l'intelligence qui se sépare. Elle a une possibilité de prendre du recul. Alors, il faut comprendre que les interrogations proviennent de mes expériences. Évidemment, je pourrais dire que les interrogations, c'est l'intelligence qui se sépare des sensations pour retrouver sa structure. C'est là où on voit tout de suite que l'interrogation peut se situer de deux façons différentes. L'intelligence se sépare des sensations, donc pour retrouver son autonomie, elle est ligotée bêtement, punition. Une punition. Mon intelligence est liée à une sensation, c'est une punition. C'est la position de Platon, on la comprend. Mais pourquoi dites-vous que c'est une punition? Vous n'aimez jamais de sentir. Vous avez eu. Vous savez, c'est la fameuse parole d'Aristote à l'époque, il y a de la joie à sentir. Il y a de la joie à expérimenter. Ce qui montre que ce n'est pas contre nature. C'est un petit signe. Vous aimez de regarder un beau coucher de soleil. Ah, tiens, hein, et là, vous êtes en prison. Et donc c'est très très mauvais. Vous êtes en prison. Vous êtes en prison et vous vous réjouissez d'être en prison pour regarder le soleil. Vous dites, oh, c'est beau, c'est magnifique, extraordinaire. La neige qui tombe, la première neige, et le coup de soleil sur les neiges. Comme c'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Bon, alors, vous n'avez pas le droit de vous réjouir, vous êtes en prison. Pas le droit, c'est du sadisme de vous réjouir d'être en prison. Alors, est-ce que c'est du sadisme de regarder le soleil et dire c'est beau, c'est extraordinaire? Non, je crois que c'est naïf. Ah oui, c'est naïf, je suis d'accord. Après tout, si avoir un peu de joie c'est d'être naïf, j'opte pour la naïveté. Ça me donne cette joie de me renouveler en face de quelque chose qui m'est donné. Bon, alors, il y a la sensation. Je n'ai pas le droit de dire tout de suite, a priori, je n'ai pas le droit de dire tout de suite que la sensation est mauvaise. Je constate qu'il y a des expériences comme ça qui procurent de la joie. Comme ici, c'est bon. La joie, normalement, me manque à quelque chose de naturel. Parce que quand je suis dans quelque chose qui n'est pas naturel, c'est dur, il n'y a pas de joie. Tandis qu'il y a de la joie de sentir certaines sensations. Pas tous, hein, parce que de temps en temps, c'est pas drôle non plus. Hein. Mais normalement, il peut y avoir quand même certaines joies d'être dans un certain milieu. Un milieu qui est un milieu beau. Et je souffre de certains milieux où il manque un peu de beauté. Alors, parce qu'il manque un peu de beauté, j'en souffre. Ce qui prouve qu'il y avait quand même une nostalgie vers quelque chose d'autre. Alors, il y a ce fait que l'intelligence va se séparer. Alors on pourra dire, l'intelligence voudra retrouver sa structure propre. Alors, c'est ici, vous voyez, on dirait, c'est à partir de là qu'elle va trouver ses formes a priori, qui lui sont données a priori. C'est une position. Je peux aussi dire, c'est une autre position. Il faut voir les deux. C'est toujours intéressant de voir les deux. C'est une autre position de dire, mais non, l'intelligence, si elle est liée au sens et qu'il y a une certaine joie de découvrir certaines choses, ça prouve que c'est naturel, l'intelligence, d'être lié aux sensations. Si c'est naturel, l'intelligence, d'être lié aux sensations, ça prouve qu'il peut y avoir un apport des sensations par rapport à l'intelligence. Et cet apport tout à fait premier, ce seront les premiers plis de l'intelligence, les plis premiers d'intelligence, qui ne sont pas des formes a priori, qui seront des plis qui proviendront de mes expériences et qui mettront mon intelligence dans telle orientation. Et c'est ce que je constate d'une certaine manière quand je réfléchis sur mes interrogations tout à fait premières. Là, je réfléchis sur mes premières interrogations. Je vois que ces premières interrogations, qu'il y a quelque chose de particulier dans ces diverses interrogations. Et je vois que ces diverses interrogations peuvent s'expliquer en voyant les liens de l'intelligence avec les diverses expériences. Je constate qu'il y a des liens. Et c'est là où, justement, j'abandonne cette position de forme a priori, en disant, si c'était des formes a priori, je ne verrais pas très bien le lien avec les sensations. Ce lien avec les sensations serait tout à fait secondaire, il n'aurait plus aucun intérêt. Alors, comment expliquer cette joie? Comment expliquer que, de fait, mon intelligence a un certain repos dans l'expérience? Il y a une certaine détente dans l'expérience. La preuve, c'est quand on est fatigué, on a besoin de changer de lieu. Expliquez ça. Si vous avez uniquement des formes a priori, pas besoin. Enfermez-vous dans votre cellule, ne voyez personne, et puis vivez vos formes a priori. Et vous vous reposerez. Alors, vous voyez, alors que non, j'ai besoin d'étendre, j'ai besoin de voir d'autres têtes, ça me fatigue autour de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'usure des pneus, comme vous voulez. Alors, dérape. Les sensations sont usées. Là, on dérape. Tandis que si on voit autre chose, on se détend. Il y a une détente. Il faut essayer de comprendre ça, parce que ça, c'est le côté voyez, très réaliste de l'intelligence qui vit dans un certain milieu. C'est le côté réaliste de l'homme intelligent et qui a besoin de ses sensations pour découvrir ses premiers plis de l'intelligence. Alors je dis plis de l'intelligence pour montrer justement que ça dépend de quelque chose d'autre. Mais il y a quelque chose aussi qui me fait toucher mon autonomie. L'autonomie de l'intelligence, c'est quand elle interroge. C'est la première autonomie de l'intelligence. Je découvre là, à ce moment-là, la première autonomie de l'intelligence. Elle est capable de dépasser le problème. Elle est capable de se poser des questions. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que c'est le TST? Première fois que l'intelligence s'est posée la question TST. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce? Puis chacun en vue de quoi? Les cinq interrogations que nous avions vues. Et les six en voyant comment. Donc il y a un statut. Ça, je voudrais beaucoup que chacun d'entre nous, nous essayons de comprendre ce statut particulier de l'interrogation. Alors, en voyant, en laissant de côté, moi je reviens très bien, hein, je ne vous demande pas tout de suite d'adhérer à certaines positions, je vous donne des pistes de recherche. Ce sont des pistes de recherche que je vous donne. Bon, hein, je vous rappelle cette manière de voir, est-ce qu'on pourrait dire que l'intelligence a ses a priori, et donc nécessairement l'intelligence interrogera en fonction de ses a priori. Mais alors, si elle a ses a priori, pourquoi interroge-t-elle? Pourquoi interroge-t-elle? Parce que si elle a ses a priori, elle doit redécouvrir en elle-même tout. Elle n'est elle-même que quand elle se coupe des sensations. La dépendance de l'intelligence à l'égard des sensations, c'est vrai, c'est vu à partir de cette joie et à partir du devenir. J'ai besoin de revenir à l'expérience. J'ai besoin de revenir constamment à l'expérience. Alors, si j'ai besoin de revenir constamment à l'expérience pour croître dans mon intelligence, ça prouve que mon intelligence trouve quelque chose dans le contact avec la réalité, avec le milieu extérieur. C'est quelque chose qui me nourrit. Si c'est quelque chose qui me nourrit, ça prouve que justement, je n'ai pas tout a priori en moi. Qu'il y ait un petit mélange entre les deux, c'est bien évident. Les plis de l'intelligence, ce n'est pas la réalité. C'est autre chose. C'est l'intelligence qui est capable de dominer la réalité, mais qui y revient. Si c'était purement a priori, je n'aurais pas besoin d'y revenir. J'aurais pas besoin de revenir, c'est parce que j'aurais mes a priori. Alors je peux dire, ah, ce sont des a priori imparfaits, des a priori pierre d'attente. Et donc j'ai besoin de l'expérience pour confirmer cela. Si j'ai besoin de l'expérience pour confirmer cela, ces a priori imparfaits sont quand même ceux qui modifient la réalité. Alors quel est l'apport de l'expérience par rapport à ces a priori? C'est toutes les positions qu'il faut poser là-dessus. Ou au contraire, de voir que l'expérience me donne ses premiers plis, j'ai besoin de perfectionner et de revenir à la réalité, parce que la réalité est pour moi beaucoup plus source de progrès qu'uniquement une confirmation de mes a priori. Alors là, il y a deux positions philosophiques, on y reviendra, parce que ce sont des positions philosophiques qu'il faut toujours voir en parallèle. Alors, ici, je vois ces liens de mon expérience, de mes cinq types d'expérience, cinq modalités d'échange avec les cinq plis. Alors, je vous ai dit comment le saisir, ça met du temps. C'est pour ça que je ne vais pas revenir indéfiniment là-dessus, ça met du temps. Il faut essayer de comprendre comment chacun de ces plis est lié avec l'expérience qui a telle modalité spéciale, une expérience où la vision est plus forte, où le toucher est plus présent, et ainsi de suite. Une fois que mon intelligence interroge, et qu'elle interroge en comprenant, du moins spontanément, en comprenant que, de fait, cette interrogation provient de mes expériences, et que par l'interrogation, j'explicite quelque chose que j'ai saisi et quelque chose que je n'ai pas saisi. Mon intelligence, en interrogeant, montre à la fois quelque chose qui est saisi. Qu'est-ce? Il y a quelque chose qui est saisi. Parce que s'il n'y avait rien, il y a le ti esti. Il y a une certaine détermination qui est saisie, il y a un pli. Et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas saisi. Au fond, le statut propre de l'interrogation, c'est d'impliquer déjà une certaine connaissance, et une connaissance qui est imparfaite, qui demande d'aller plus loin. Et c'est pour ça que je reviens à la réalité. Et je reviens à l'expérience. Ce besoin de revenir à l'expérience pour aller plus loin montre bien que dans le statut de l'interrogation, il y a un appétit de l'intelligence qui n'est pas satisfait. Une intelligence qui interroge est une intelligence insatisfaite. Et c'est pour ça que Merleau-Ponty dit, l'idéaliste n'interroge plus. Parce qu'au fond, l'idéaliste n'interroge plus puisqu'il a son idée. Et son idée, comme idée, elle est parfaite. Parce que l'idée n'est pas dans la réalité. L'idée, elle est dans l'intelligence. Et si c'est l'intelligence qui est source des idées, ben oui, la réalité pourra uniquement confirmer que cette idée est conforme à la réalité, mais ne me donnera absolument pas la possibilité d'aller plus loin dans la compréhension de l'idée. Alors, au contraire, si j'interroge, c'est pour aller plus loin dans la signification profonde de la détermination. C'est parce que justement cette détermination première que j'ai reçue de la réalité, elle implique une certaine signification, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour découvrir plus profondément cette signification. Et c'est pour ça qu'on revient au réel. L'interrogation me conduit à revenir au réel. Alors, je prends un petit exemple pour que nous puissions mieux. Je prends l'exemple au point de vue métaphysique que nous reverrons. Je constate par l'expérience, si je prends un jugement fondamental, le jugement d'existence, je dis ceci est. En fonction de l'admiration entre l'expérience et l'interrogation, il y a l'admiration, c'est-à-dire l'attitude affective. Toujours. À chaque progrès de l'intelligence, il y a la volonté qui est là, qui pousse l'intelligence. Mon intelligence ne se développe jamais toute seule. Elle se développe toujours en fonction de mon affectivité. Toujours. C'est de l'ardeur. S'il n'y a pas d'ardeur, s'il n'y a pas le thumos, on n'avancera pas du tout. Mais la spiritualité de la planche ne fait pas interroger. Comme je te pousse. Non, il faut toujours interroger. Et pour interroger, il faut l'admiration. Et l'admiration va naître à partir nécessairement de plusieurs expériences. De plusieurs expériences qui montrent, par exemple, quand je dis ceci est, que le ceci peut être extrêmement divers et que toujours ça existe. Ce que Maritain appelle l'intuition de l'être, c'est en réalité ce point de vue, cette admiration que j'ai, où je vois la diversité des réalités qui existent, et je vois que toutes ces réalités existent. Toutes dans leur diversité. C'est quand Raïssa voit le chat et qu'elle se regarde, qu'elle dit, c'est très étonnant, le chat existe, j'existe. Quelle différence y a-t-il entre le chat qui existe et puis Raïssa qui existe? Et au fond, ça a été le point de départ de cette espèce d'étonnement. Mais l'étonnement. En réalité, cette intuition de l'être, c'est beaucoup plus l'étonnement. L'étonnement par rapport... Alors, il y a quelque chose d'intuitif. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose d'intuitif dans cet étonnement. Parce que je saisis la diversité et l'unité. Dès qu'on saisit l'unité dans la diversité, il y a une certaine intuition. Or, est-ce que l'étonnement ne provient pas toujours de ça? On est étonné que la vache existe. Et moi-même aussi. C'est vraiment très étonnant. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la vache et moi? Oui, nous sommes des animaux, et nous aimons brouter la salade. Alors, ça fait partie de quelque chose de commun. Donc, la vache existe, j'existe. Toutes les réalités qui sont au moins existent. Donc, ceci est la diversité et en même temps l'unité. Donc, il y a une certaine intuition. Ça, je suis d'accord, il y a une certaine intuition. Une certaine intuition qui permet d'expliquer l'étonnement, l'admiration. C'est très étonnant que dans la diversité, il y a l'unité de ce jugement d'existence qui est là présent. Ceci est dans la diversité. Alors, dans la diversité, il y a l'unité. Si dans la diversité, il y a l'unité, je suis dans l'étonnement, je suis dans l'admiration, et cette admiration va se traduire dans une interrogation. Parce que d'où vient cet étonnement ? C'est que l'unité se trouve dans la diversité. Or, l'unité, c'est quoi ? C'est que toute ces réalités existent. Donc, c'est l'existence. C'est l'existence qui est commun, qui est un, dans toute cette diversité. Je mets donc en pleine lumière, et c'est propre de l'interrogation, je mets en pleine lumière, par l'interrogation, mon étonnement. Toute interrogation provient d'un étonnement. Ça, je crois que quand il n'y a plus d'étonnement, quand on est blasé, on n'interroge plus. Vous voyez, alors quand Merleau-Ponty dit l'idéaliste n'interroge plus, je pourrais dire l'homme blasé n'interroge plus. Oh, c'est quoi ? J'ai fait 36 fois ce trou. C'est bien. Alors on ne regarde plus rien du tout. On regarde que la longueur de la route. Et puis c'est tout. Et on ne regarde plus rien du tout. On est blasé. On n'interroge plus. Tandis que la première fois qu'on l'a fait, oui, c'est interrogé sur le tournant, sur tout un tas de choses comme ça. On est blasé. Alors quand on est blasé, on n'interroge plus. Vous voyez, il y a les deux sources de l'interrogation. Il y a le fait d'être en contact avec quelque chose que l'on considère comme une source, alors que si je considère que la source de ma connaissance, c'est mon idée, je n'interroge plus. Parce que j'en vois. Purifie. La purification n'est pas l'interrogation. Et la purification n'est pas l'interrogation. Alors ça, on peut se purifier. Avoir des idées réclame une purification des idées. Et dans l'attitude phénoménologique, il y a très fort la purification des idées. Et une purification des idées pour arriver à l'idée première. L'idée dans sa naissance pure, dans son premier moment. Alors que si il y a cette espèce d'étonnement et cette admiration, je reviens donc, j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'exister ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? À partir du jugement d'existence, ceci est. Alors, je me pose l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et je reviens à l'expérience. Nous y reviendrons à ça, parce que quand nous entrerons en métaphysique ici, je vous montre un peu la structure de la pensée. Et je reviens donc. Qu'est-ce que c'est que l'exister ? Et je reviens à la réalité qui existe pour comprendre l'exister tel qu'il est, tel que je peux le saisir, dans son état tout à fait pur, et non pas attaché à telle ou telle réalité. Vous voyez, je mets en pleine lumière le « est ». Dans le ceci est, je mets en pleine lumière le être en disant qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'exister ? C'est une espèce de thématisation qui se fait, qui est très très curieuse. C'est l'intelligence a besoin de formaliser. L'intelligence a besoin de passer de l'expérience à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est que l'être ? À partir de la diversité. Et alors, je reviens ensuite. Et si je reviens à la réalité, c'est pour aller plus loin. C'est pour saisir dans la réalité le principe. Ça, c'est encore autre chose. J'interroge le TST pour saisir l'acte, le principe. Pour saisir ce qu'est le premier. Et c'est vrai. Toute analyse qui se fait à partir d'une interrogation, toute analyse consiste à vouloir saisir ce qu'il y a de fondamental pour nous. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. C'est-à-dire saisir l'invisible. dans un ordre donné. L'indivisible à partir d'interrogation. Qu'est-ce qu'il y a d'indivisible? Parce que toujours, tout ce qui est divisible, l'analyse, le regard et s'empare pour le diviser. Si l'analyse, c'est la division, ou si vous voulez, si toute analyse implique une division, seul le divisible peut être analysé. Et donc, tout ce qui est divisible dans la réalité va être la matière à l'analyse. Et dès que je vais contacter quelque chose qui résiste à la division, qui est au-delà de la division, je suis en face d'un problème. Alors, je pourrais dire momentanément, on verra, je suis en présence d'un premier individu, ça résiste. Ça résiste. C'est une ville brequin. Vous touchez quelque chose, hein, si je continue, je vais tout casser. Je sens bien. Ça résiste. Il doit y avoir là quelque chose qui n'est plus. Je ne peux plus utiliser. Mon intelligence touche quelque chose. Elle atteint quelque chose qu'elle ne peut plus utiliser. Alors, c'est peut-être momentané. C'est parce que mon analyse et mon instrument ne peuvent pas aller plus loin. Je prends un instrument beaucoup plus puissant, et en fait, ça résiste encore. Et puis, si je vois que ça résiste, là, je suis dans le quantitatif, hein. Mais l'intelligence peut aller beaucoup plus loin et saisir le nœud de résistance par rapport à l'intelligence. Elle saisit ce qu'on appelle un principe. Le principe, c'est ce au-delà de quoi l'analyse ne peut pas aller. Donc, c'est vraiment quelque chose de premier. Eh bien, ce passage, c'est ça qui est intéressant à noter, ce passage de l'interrogation, plus exactement, ce mouvement, un passage, ce mouvement de l'intelligence qui interroge, qui revient à la réalité expérimentée, pour se servir de cette réalité expérimentée et la regarder sous la lumière de mon interrogation, et la découverte de ce premier, c'est ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est ce mouvement de l'intelligence en recherche. C'est une intelligence qui cherche. Une intelligence qui déduit ne cherche plus. Elle exploite. Ça sied, elle exploite. Elle est toute une richesse. Le jour où vous voyez toute une richesse, vous ne cherchez plus. Tandis que le jour où vous cherchez, vous creusez. Vous creusez tout le temps. Et vous creusez dans les différents sens. Alors vous êtes en phase d'un mouvement inductif. Et le mot inductif, c'est l'intelligence vraiment dans sa recherche. L'intelligence qui veut toujours aller plus loin. C'est l'intelligence qui veut creuser. Alors, dans toute induction, vous voyez, il y a la réalité expérimentée, il y a l'interrogation, il y a la découverte d'un premier. Et c'est ça le mouvement propre de l'induction. Et je crois que ça, c'est très important. Le mouvement propre de l'induction. Alors, il y aura différents types d'induction, nous ne le voyons pas maintenant, c'est pas la peine, ça vous troublerait. Alors, je vois uniquement ce mouvement qualitatif de l'induction qui saisit un premier, qui saisit quelque chose, une résistance. Je ne peux pas aller plus loin. On secoue dans tous les sens pour être sûr qu'on ne peut pas aller plus loin. Et on fera tous les moyens pour être sûr qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'on touche vraiment quelque chose que l'intelligence saisit, touche, comme un au-delà de tout le divisible, un au-delà de tout ce qui nous est donné en premier lieu. Alors, comme il y a diverses interrogations, il y aura diverses inductions. Par rapport à la même réalité peut être regardée de diverses manières. Et quand elle est regardée de diverses manières, je saisis dans la réalité quelque chose de premier. Mais ça, c'est l'analyse, c'est le fruit de l'analyse, saisir le premier. Et ce premier, c'est ce qu'on va appeler cause. La cause, c'est toujours un premier dans l'ordre du devenir ou dans l'ordre de l'être. C'est ça qu'on appelle la cause. Ah, il faut le comprendre, hein. Il faut bien l'appeler par un nom. ce premier que je saisis dans l'ordre du devenir. Il y a des premiers dans l'ordre du devenir. Il y a des premiers dans l'ordre de l'être. Il y a des premiers dans l'ordre de l'action. Il y a des premiers dans l'ordre de la réalisation. Il y a des premiers dans les différents ordres de mon analyse. Tous ces premiers, c'est ce que je saisis. Ces premiers, on les appelle cause. Alors que lorsque je suis en face d'un premier uniquement dans l'ordre de la pensée, je l'appelle principe. Le principe, c'est uniquement au niveau de l'intelligence. Uniquement. Ce n'est pas au niveau de l'être ni du devenir. C'est la différence entre la cause et le principe. Ça, c'est une petite distinction qu'Aristote a faite, que saint Thomas a repris, et que je crois très fondée. Est très intéressant, parce que ça fait comprendre comment il peut y avoir des premiers principes qui ne sont pas eux. Ils sont premiers principes dans l'ordre de l'intelligence. Le premier principe dans l'ordre de l'intelligence, c'est le principe de non-contradiction, qui exprime la loi profonde de l'intelligence dans sa recherche. Vous voyez, c'est l'intelligence qui cherche, et de fait, l'intelligence n'accepte pas la contradiction. C'est pour ça qu'on dira un principe de non-contradiction, c'est qu'en disant que, en même temps, une chose ne peut pas être et ne pas être. Et ça, c'est pas une cause, hein. C'est un principe de l'intelligence. C'est uniquement dans l'ordre de l'intelligibilité. Donc, si je distingue l'ordre de l'intelligibilité, ce que je connais, de la réalité, ce que je connais de la réalité, ce qui est connaissable dans la réalité, et puis la réalité elle-même. Je vois que la réalité elle-même est plus fondamentale que l'intelligibilité, normalement. Mais l'intelligibilité est première. C'est pour ça que pour moi, le principe est bien ce qu'il y a d'ultime. Mais dans la réalité, ce qu'il y a d'ultime, c'est la cause. Ce n'est pas le principe. C'est une petite distinction très importante entre principe et cause. Je dirais ceci, vous allez comprendre. Je dirais ceci. Toute cause est un principe. Tout principe n'est pas cause. Toute cause est un principe. Toute cause est un principe. Parce que toujours quand je suis en face de la cause, je suis en face de quelque chose au-delà de quoi je ne peux pas aller. Tandis que tout principe n'est pas cause. Le principe de non-contradiction n'est pas une cause. C'est un principe. C'est un axiome. C'est une loi. Le premier dans l'ordre du conditionnement de ma vie intellectuelle. Le conditionnement de ma vie intellectuelle implique ça. Donc c'est une loi fondamentale de la vie de l'intelligence. Je découvre ce principe qui n'est pas une cause. Donc le principe, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'intelligibilité, et la cause, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre du devenir et de ce qui est. L'induction saisit les causes, pas les principes. Nous verrons ça la fois prochaine.